10. Le garçon, Jake, s'était abandonné dans le siège, les mains ballantes le long du corps. Le chien bizarre levait vers le visage du gosse un regard anxieux, mais le gosse ne le voyait pas. Il avait les yeux fermés, et Irène Tassenbaum crut d'abord qu'il s'était évanoui.
« Fiston ? Jake ?
Je l'ai !»
dit le garçon sans ouvrir les yeux.
« Pas Stephen King, lui je ne peux pas le contacter avec le Shining, mais l'autre, je dois le ralentir. Comment je peux le ralentir ?»
Madame Tassenbaum avait assez écouté son mari au travail, à se tenir de longs monologues à mi-voix pour reconnaître quelqu'un qui parlait tout seul. Et elle n'avait aucune idée de qui parlait le garçon, sauf qu'il ne s'agissait pas de Stephen King, ce qui laissait environ 6 milliards de possibilités en gros. Toujours est-il qu'elle répondit quand même parce qu'elle savait ce qui la ralentissait toujours, elle.
« C'est dommage qu'il n'ait pas envie d'aller aux toilettes. »
11. Il n'y a pas encore de fraises dans le Maine, pas si tôt dans la saison, mais il y a des framboises. Justin Anderson, de Maybrook, dans le comté de New York, et Elvira Tutaker, son amie de Lovell, se baladent au bord de la route 7. La vieille route de Freiburg, comme Elvira l'appelle encore, avec leurs seaux en plastique, faisant leurs cueillettes dans les buissons qui courent sur au moins 500 mètres le long du vieux mur de pierre. C'est Garrett McKean qui a bâti ce mur il y a une centaine d'années, et c'est à l'arrière-petit-fils de Garrett que Roland de Gilead est en train de parler en ce moment même. Le cas est une roue, vous intuitez. Les deux femmes ont pris grand plaisir à leur promenade d'une heure. Non pas parce qu'elles ont l'une ou l'autre un amour particulier des framboises. Justine ne compte même pas manger les siennes parce qu'elle se retrouve toujours avec des grains coincés entre les dents. Mais parce qu'elle leur a donné l'occasion de rattraper les potins sur leurs familles respectives et de rire un peu en repensant aux premières années de leur amitié, et qui était alors la chose la plus importante de leur vie d'adolescente. Elles s'étaient rencontrées au lycée Vassar. Il y avait 1000 ans, leur semblait-il. Et elles avaient porté ensemble la guirlande de pâquerettes pour leur remise de diplôme. C'est de ça qu'elles reparlaient lorsque la camionnette bleue, un Dodge Caravan de 1985, Justine reconnaît la marque et le modèle parce que son fils aîné s'en est acheté un exactement pareil quand sa tribu a commencé à s'agrandir. Des boules au coin de chez Merlder, restaurant allemand et Brothaus. Elle occupe toute la largeur de la route à faire des zigzags, soulevant de la poussière sur le bas-côté gauche, avant de rebondir au milieu de l'asphalte, puis d'aller mordre sur l'autre bas-côté. La deuxième fois que ça se produit, et alors c'est droit sur elle que la camionnette fonce et à fond la caisse. Justine se dit que l'engin va bel et bien verser dans le fossé, qu'il va faire le coup de la tortue, comme on disait dans les années 40 quand elles étaient à Vassar toutes les deux. Mais le conducteur redresse le cap et regagne la chaussée juste à temps.
« Regarde, il est sous quelque chose comme ça !»
s'exclame Justine alarmée. Elle tire Elvira en arrière, mais elle se retrouve acculée au vieux mur de pierre avec son banc de framboisier. Leurs pantalons se prennent dans les ronces. « Dieu merci, aucune de nous ne portait de short !» se dira Justine plus tard quand elle aura le temps d'y réfléchir, et arrache de petites peluches de tissu. Justine se dit qu'elle devrait passer le bras autour des épaules de son amie et les faire basculer toutes deux par-dessus le mur qui lui arrive à la taille, un flip-flap, comme en cours de gym il y a bien des années de ça. Mais avant qu'elle ait eu le temps de se décider, la camionnette bleue est près d'elle, et au moment où elle passe, elle est à peu près recentrée sur la route et ne représente plus un danger pour les deux femmes. Justine la regardait filer dans un beuglement assourdi de musique rock, le cœur battant à tout rompre, et sur la langue le goût froid et métallique d'une substance que son corps a dû sécréter, très probablement de l'adrénaline. Et à mi-chemin de la colline, la camionnette bleue recommence ses acrobaties et traverse la ligne blanche. Le conducteur corrige le tir. Non, il corrige trop. Une fois encore, le véhicule va manger le bas-côté, faisant voler la poussière jaune sur 50 mètres.
« Bon Dieu, J'espère que Stephen King va voir ce connard !»
lance Elvira. Elles ont dépassé l'écrivain environ 500 mètres plus haut. Ils se sont dit bonjour. Tout le monde en ville a dû le voir se promener l'après-midi, un jour ou l'autre. Comme si le conducteur de la camionnette avait entendu Elvira tout à cœur le traiter de connard, les feux de stop s'allument tout à coup. Le véhicule dérive jusque sur le bas-côté et s'immobilise. Quand la portière s'ouvre, ces dames entendent beugler la musique. Elles entendent aussi le conducteur, un homme, qui hurle après quelqu'un. Elvira et Justine ont pitié de la personne coincée en voiture avec ce type-là par un bel après-midi ensoleillé de juin.
« Tu laisses ça tranquille, t'entends ?» crie le type. « C'est pas pour toi, t'entends ?»
Puis il se penche à l'arrière de la voiture, il en retire un bâton et s'en sert pour écarter les ronces contre le mur, puis il l'enjambe. La camionnette est à l'arrêt sur le bas-côté, moteur tournant toujours, portière ouverte, avec de la fumée qui sort d'un côté et de la musique à fond de l'autre.
« Mais qu'est-ce qu'il fiche ?»
demande Justine un peu nerveuse.
« La vidange, à mon avis !»
suggère son ami.
« Mais si Monsieur King là-bas a de la chance, s'il a choisi l'itinéraire numéro 2, ça lui donnera peut-être le temps de quitter la route 7 et de reprendre le chemin du dos de la tortue. »
Tout à coup, Justine n'a plus du tout envie de ramasser des framboises. Tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle, se faire une tasse de thé bien fort. Le type ressort des buissons d'un pas vif mais emboîtillant et utilise à nouveau son bâton pour passer le mur.
« J'imagine qu'il n'aura pas eu besoin de prendre l'itinéraire numéro 2, » conclut Elvira.
Et alors que le chauffard remonte à bord de sa camionnette bleue, les deux femmes, plus toutes jeunes, se regardent et se mettent à glousser. 12. Roland observait le vieil homme qui donnait des instructions à la femme. Il parlait de prendre Warrington's Road comme raccourci, et c'est alors que Jake ouvrit les yeux. Roland trouva au garçon un air incroyablement las.
J'ai réussi à le faire s'arrêter pour pisser. Maintenant, il est en train de farfouiller derrière son siège. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais ça ne le retiendra pas très longtemps. Roland, ça va mal. On est terriblement en retard. Il faut y aller.
Roland se tourna vers la femme, espérant que sa décision de ne pas mettre le vieil homme à sa place au volant était bien la bonne.
« Vous savez où aller, vous comprenez ?»«
Oui, il faut remonter Warrington jusqu'à la route 7. On y va parfois dîner à Warrington, je la connais cette route. »«
Je peux pas vous garantir que vous le croiserez en passant par là, »
dit le type de l'entretien, « mais c'est probable. » Il se baissa pour ramasser son chapeau et se mit à en épousseter les brins d'herbe fraîchement tondus. Il le fit en longs gestes lents, comme un homme perdu dans ses rêves.
« Et pour sûr, ça me paraît probable. »
Et alors, toujours comme un homme dans un rêve, il se cala le chapeau sous le bras, leva le poing à son front et plia la jambe devant l'inconnu avec son gros revolver à la hanche. Et pourquoi s'en priver? Après tout, l'inconnu était entouré d'un halo de lumière blanche. 13. Lorsque Roland se réinstalla dans l'habitacle du camion de l'épicier, tâche rendue plus difficile encore par la douleur qui croissait rapidement dans sa hanche droite. Il posa instinctivement la main sur la jambe gauche de Jake et subitement, aussi simplement que ça, il sut ce que le garçon lui cachait. Et pourquoi? Il craignait que, s'il savait, la tension du pistolero se relâche. Ce n'était pas le cachum que Jake avait ressenti, ou bien Roland l'aurait éprouvé lui aussi. Et comment pourrait-il y avoir du cachum parmi eux quand leur tête était déjà brisée? Leur pouvoir spécial, plus grand que tous, peut-être hérité du rayon même, avait disparu. À présent, ils n'étaient plus que trois amis, quatre en comptant le bafouilleux, unis par une seule et même cause. Et ils pouvaient sauver King. Jake le savait. Il pouvait sauver l'écrivain et, ce faisant, se rapprocher d'un pas de leur but. Sauver la tour. Mais l'un d'eux allait mourir dans cette épreuve. Jake savait cela aussi. 14. Il vint alors à Roland un vieux dicton que son père lui avait appris.
qui disait « Si le cas en décide ainsi, alors ainsi soit-il. »
Oui, très bien. Ainsi soit-il.
Au cours des longues années qu'il avait passées sur les traces de l'homme en noir, le pistolero aurait juré que rien dans l'univers tout entier n'aurait su le faire renoncer à la tour. N'avait-il pas littéralement tué sa propre mère pour elle au tout début de sa terrible carrière? Mais en ces temps-là, il n'avait pas d'amis, pas d'enfants. Et il avait horreur de devoir l'admettre, mais c'était la vérité. Pas de cœur. Il était ensorcelé par cette froide aventure que ceux qui ne savent pas aimer prennent pour de l'amour. À présent, il avait un fils. On lui avait accordé une seconde chance et il avait changé. Sachant que l'un d'entre eux devait mourir pour sauver l'écrivain, que leur confrérie devait se réduire encore et si vite, ne le ferait pas renoncer. Il s'assurerait seulement que ce serait Roland de Gilead et non Jack de New York qui tiendrait lieu de sacrifice cette fois-ci. Le garçon savait-il que Roland avait percé son secret? Il n'avait pas le temps de s'en soucier pour l'instant. Roland claqua la portière du camiobile et se tourna vers la femme. « Vous vous appelez Irène ?»
Elle fit oui de la tête.
« Conduisez, Irène. » Aussi vite que si vous aviez Monseigneur pied fourchu au train et qu'il avait la ferme intention de vous violer, je vous prie. La route de Warrington. Et si on ne la voit pas là, la route 7. Vous voulez bien?
Si je veux, bordel!
Dit Madame Tassenbaum en enclenchant la première avec une autorité indiscutable. Le moteur hurla, mais le camion démarra en marche arrière, comme si l'engin avait tellement peur de la tâche à accomplir qu'il préférait finir dans le lac. Elle changea alors de vitesse et le vieux International Harvester bondit en avant et s'attaqua à la pente raide du chemin, laissant derrière lui un sillage de fumée bleue et de caoutchouc brûlé. L'arrière-petit-fils de Garrett McKean les regarda s'éloigner, bouche bée. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer, mais il avait l'intuition que beaucoup de choses dépendraient de ce qui allait se passer ensuite. Peut-être même que tout en dépendrait. 15. C'était bizarre d'avoir envie de pisser à ce point, parce que c'était la dernière chose qu'avait faite Brian Smith avant de quitter le camping fantastique. Et après avoir escaladé ce putain de mur en pierre, il avait à peine pu faire quelques gouttes, même s'il avait cru que sa vessie allait exploser tellement il avait envie. Brian espère qu'il n'a pas chopé un truc à la prostate. C'est bien le dernier truc dont il ait besoin, des problèmes de prostate. Il a déjà assez de problèmes comme ça, bon sang de bois. Ouais, maintenant qu'il s'est arrêté, autant essayer de recaler la glacière derrière le siège. Les chiens la matent toujours avec la langue qui pend. Ils tentent de la glisser sous le siège, mais ça n'entre pas. Pas assez de dégagement. Au lieu de ça, il pointe un doigt crasseux vers ses rottes en leur répétant « Pas touche à la glacière et à la viande qui est dedans. C'est à lui, c'est son casse-croûte. » Ils songent même à leur promettre d'en mélanger un peu à leur Purina s'ils sont bien sages. Pour Brian Smith, ça représente un gros effort de réflexion, mais la solution simplissime qui consiste à faire passer la glacière à l'avant, sur le siège passager, ne lui traverse pas une seconde l'esprit. « Vous touchez pas à ça !» leur répète-t-il, et d'un bond il reprend sa place au volant. Il claque la portière, jette un œil dans le rétro central et voit deux vieilles dames là-bas. Il ne les avait pas vus avant parce qu'il n'était pas exactement en train de regarder la route quand il les a dépassées. Leur adresse un petit signe qu'elles ne verront jamais à travers le pare-brise arrière répugnant, puis reprend son chemin sur la route 7. À la radio, maintenant, il passe « Gangsta Dream 19 » d'Autre et Juice. Et Brian monte le son. Du coup, il retraverse la ligne blanche et se retrouve sur la file d'en face. C'est le genre à ne pas pouvoir régler la radio sans la regarder. Le rap, ça arrache. Et le métal aussi, ça arrache. Tout ce qu'il lui faut pour que ce soit le bonheur. C'est un titre d'Ozzy, Crazy Train, ce serait le top. Et puis 2 ou 3 Mars aussi. 16. Madame Tassenbaum émergea comme une fusée de l'allée de Karakiri, dans le chemin du dos de la tortue, en seconde, faisant gémir le moteur du vieux pick-up. S'il y avait eu un contour sur le tableau de bord, l'aiguille aurait forcément été dans le rouge. Et les quelques outils éparpillés à l'arrière dansant des claquettes sur la tôle rouillée. Roland n'était pas très doué pour le Shining, même pas du tout comparé à Jack. Mais il avait rencontré Stephen King et il l'avait plongé dans le sommeil trompeur de l'envoulte. C'était un lien très fort entre deux êtres. Aussi ne fut-il pas totalement surpris lorsqu'il entra en contact avec l'esprit que Jake n'avait pas réussi à atteindre. Et le fait que King ait été en train de penser à eux fut forcément d'un certain secours.
« Ça lui arrive souvent pendant sa promenade, » se dit Roland. Quand il est seul, il entend le chant de la tortue et il sait qu'il a un travail à accomplir. Un travail auquel il se dérobe. Eh bien, mon ami, c'est aujourd'hui que tu vas le finir. S'il réussissait à le sauver, bien sûr. Il se pencha par-dessus Jake et s'adressa à la femme. « Vous ne pouvez pas faire accélérer cet engin maudit des dieux ?»«
Si, je crois que si. »
Puis, se tournant vers Jake,
« Tu sais vraiment lire dans les pensées, fiston, ou est-ce que c'est seulement un jeu entre ton ami et toi ?»« Je ne lis pas dans les pensées, pas vraiment, mais j'entre en contact avec l'esprit. »« J'espère de tout mon cœur que c'est bien vrai, parce que le chemin du dos de la tortue est plutôt accidenté et pas assez large pour deux voitures. Si tu sens qu'il vient quelqu'un en face, il faudra me le dire. »« D'accord. Excellent. »
lança Irène Tassenbaum. Elle eut un large sourire. Vraiment, elle n'avait plus aucun doute à ce sujet. C'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, la plus excitante. Maintenant, en plus d'entendre des voix qui chantaient, elle voyait des visages dans les feuillages des arbres, sur le bord de la route, comme s'ils étaient observés par une foule. Elle percevait une force extraordinaire s'accumulant tout autour d'eux et elle se sentit soudain sous l'emprise d'un vertige. L'intuition que, si elle appuyait sur l'accélérateur du vieux camion rouillé de Chip McAvoy, il irait plus vite que la lumière. Comme dopé par cette énergie autour d'eux, il pourrait même remonter le temps.
« Eh bien, pourquoi on n'irait pas un peu voir de plus près ?» se dit-elle.
Elle positionna le camion au milieu du chemin du dos de la tortue, enfonça l'embrayage et passa la troisième. Le vieil engin ne bondit pas plus vite que la lumière, il ne se mit pas à remonter le temps, mais l'aiguille du compteur de vitesse monta jusqu'à 80, puis au-delà. Le camion gravit une colline et en passant de l'autre côté, il vola un bref instant au-dessus de la chaussée. Il y avait au moins quelqu'un d'heureux dans cette histoire. Irène Tassenbaum poussa un cri d'excitation. 17. Stephen King fait deux promenades, une petite et une longue. La petite le conduit jusqu'à l'intersection de la route de Warrington et de la route 7, puis retour chez lui, à Karakiri, en sens inverse, ce qui fait environ 5 kilomètres. La promenade longue, qu'il surnomme volontiers « Marche ou crève », et c'est le titre d'un livre qu'il a écrit sous le pseudo Bachman avant que le monde change, l'entraîne au-delà de l'intersection, puis le long de la route 7 jusqu'à Slab City Road, puis à nouveau sur la route 7 jusqu'à Berry Hill, en contournant la route de Warrington. Dans cette promenade-là, il rentre chez lui par le nord du chemin du dos de la tortue, et il parcourt 7 kilomètres. C'est celle qu'il a choisie pour aujourd'hui, mais quand il arrive au croisement de la 7 et de Warrington, il s'arrête. Et il envisage vaguement d'opter pour la version courte. Il fait toujours bien attention de rester sur le bas-côté, bien que la circulation soit peu dense sur la route 7, même l'été. Le seul moment où cette route est très fréquentée, c'est au moment de la foire de Freiburg, et ce n'est pas avant la première semaine d'octobre. Mais il a une bonne visibilité globalement. S'il déboule un chauffard ou un soulard, on le voit arriver à 500 mètres, ce qui donne pas mal de temps pour évacuer les lieux. Il n'y a qu'une colline à l'aveugle, celle située juste après l'intersection de Warrington. C'est aussi une colline aérobique. Elle vous remet la vieille pompe en route comme il faut. Et est-ce que ça n'est pas exactement pour ça qu'il fait ses stupides promenades? Pour faire la promo de ce que les présentateurs télé appellent une bonne santé cardiovasculaire? Il a arrêté de boire. Il a arrêté de se droguer. Il a presque arrêté de fumer et il fait de l'exercice. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Pourtant, une voix continue de lui chuchoter des choses à l'oreille. « Quitte la route principale, » elle dit. « Retourne jusque chez toi. Il te restera une heure avant d'aller les rejoindre tous à cette fête de l'autre côté du lac. Tu pourras travailler. Peut-être même commencer le nouveau volume de ta série de la Tour sombre. Tu sais bien que ça te travaille. » « Si fait !» Pour sûr que ça le travaille, mais il a toujours une histoire en cours et ça lui plaît bien comme ça. Se remettre au récit de la tour, ça veut dire nager en eau profonde, peut-être même se noyer. Pourtant, debout à ce carrefour, il comprend tout à coup que, s'il rentre plus tôt, il va bel et bien s'y remettre. Il ne pourra pas s'en empêcher. Il lui faudra écouter ce qu'il appelle parfois « Veskagan », le chant de la tortue, et aussi parfois le chant de Susanna. Il va bazarder l'histoire en cours, tourner le dos à la terre sûre et plonger une nouvelle fois dans ses eaux sombres. Il l'a déjà fait 4 fois, mais cette fois-ci, il lui faudra nager jusque sur l'autre rive. Nager ou se noyer? Non, dit-il. Il parle à haute voix, et où est le problème? Il n'y a personne pour l'entendre ici. Il perçoit vaguement le bruit d'un véhicule à l'approche. Où est-ce qu'il y en a 2? Un sur la route 7 et un sur celle de Warrington, mais c'est tout. Non, répète-t-il, je vais marcher et ensuite je vais aller faire la fête. Plus d'histoires à écrire aujourd'hui, surtout pas celle-là. Et alors, laissant l'intersection derrière lui, il entreprend de gravir la colline abrupte avec sa visibilité très courte. Il marche en direction du bruit du camion Dodge Caravan, qui est aussi le bruit que fait sa mort imminente. Le cas du monde rationnel veut le voir mourir. Celui du prime veut qu'il survive et chante son chant. Alors, par ce bel après-midi ensoleillé dans le Maine occidental, la force irrésistible se précipite vers son objet immobile et pour la première fois depuis que le prime s'est retiré, tout monde et toute existence se tourne vers la tour sombre qui se dresse au bout de Cancan-Oreille, ce qui signifie les champs rouges de personne. Même le roi cramoisi interrompt son hurlement de colère, car c'est la tour sombre qui décidera. La résolution exige un sacrifice. Des kings. Et bien que personne ne l'entende, hormis les oiseaux, et qu'il n'ait lui-même aucune idée du sens de ses paroles, il n'en est pas troublé. Il passe son temps à marmonner tout seul. C'est comme s'il avait dans la tête une grotte des voix, une grotte remplie d'imitateurs brillants, mais pas nécessairement intelligents. Il marche ainsi, balançant les bras le long de son jean, sans avoir conscience que ce sont, ne sont pas, les derniers battements de son cœur, que ce sont, ne sont pas, les dernières pensées qui germeront dans son esprit, que ce sont, ne sont pas, les dernières prophéties de ses voix d'oracle. « Veskagan, » dit-il, amusé par les sonorités, mais attiré aussi. Il s'est promis qu'il essaierait de ne pas truffer ses délires de la tour sombre de mots imprononçables dans une langue inventée, pour ne pas dire complètement foiré. Son correcteur à New York, Chuck Verrill, en supprimera la majorité s'il commence. Mais on dirait que son esprit se remplit tout seul de ses mots et de ses expressions. Cas, catète, saille, saut, cantois. Celui-là, au moins, il vient d'un autre de ses livres, Désolation. Taïn, le Ciri Tungol de Tolkien et le Nyarlathotep de H.P. Lovecraft ne sont-ils pas tout prêts? Il rit, puis entonne une chanson que lui a donnée une de ses voix. Il se dit qu'il ne manquera pas de s'en servir dans la prochaine aventure du pistolero, quand il rendra enfin sa voix à la tortue. « Comme à la 1-2 », chante-t-il tout en marchant, Il y a un jeune homme armé d'un pistolet. Le jeune homme de ses yeux a perdu la prunelle quand sa chérie s'est fait la belle. Ce jeune homme, c'est Eddie Dean ou bien Jake Chambers? Eddie, lance-t-il à voix haute. C'est Eddie, le rebelle avec sa belle. Il est tellement absorbé par ses pensées que tout d'abord il ne voit pas le toit de la camionnette Dodge Caravan bleue qui déboule face à lui, dans son horizon proche. Aussi ne se rend-il pas compte que ce véhicule n'est pas du tout sur la chaussée, mais sur le bas-côté sur lequel il se trouve en ce moment même. Il n'entend pas non plus l'accélération furieuse du camion qui fonce derrière lui. 18. Malgré la musique à fond, Brian entend le frottement du couvercle de la glacière, et quand il jette un œil dans le rétro, il est à la fois consterné et scandalisé de voir que Mitraille, toujours le plus insolent de ces deux rottes, a sauté de l'arrière du camion dans la cabine. Il a les pattes arrière posées sur la banquette crasseuse, il agite sa queue boudinée et il a la truffe dans la glacière de Brian. En pareille circonstance, un conducteur raisonnable s'arrêterait sur le bas-côté pour s'occuper de son animal désobéissant. Mais Brian Smith, lui, n'a jamais eu de bonnes notes en logique au volant, et son casier le prouve. Au lieu de se ranger sur le côté, il fait un écart sur la droite, tenant le volant de la main gauche et essayant de la droite de frapper la tête plate du Rottweiler, sans aucun succès. « Laisse ça tranquille !» hurle-t-il à Mitraille, tandis que la camionnette fonce droit vers le fossé. « Tu m'entends, Mitraille? T'es bête ou quoi? J'ai dit lâche ça !» Il réussit à écarter la tête du chien pendant une seconde ou deux, mais ses doigts ne trouvent pas de fourrure à laquelle s'accrocher, et Mitraille, bien qu'il soit loin d'être un génie et assez malin pour comprendre qu'il a au moins encore une chance d'attraper ce truc dans son papier blanc, ce truc qui dégage cette odeur rouge irrésistible. Il plonge sous la main de Brian et se saisit du paquet entre ses mâchoires. « Lâche ça !» braille Brian. « Tu lâches ça tout de suite !» Et pour avoir plus d'amplitude pour se pencher derrière le siège, il appuie fermement sur les deux pieds. Malheureusement, l'un d'eux est posé sur l'accélérateur. La camionnette se lance à l'assaut de la colline dans une pointe de vitesse. En cet instant précis, Brian est tellement énervé et scandalisé qu'il en a oublié où il se trouve, sur la route 7, et ce qu'il est supposé y faire, conduire un camion. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'arracher ce foutu paquet de viande de la gueule de Mitraille. « Donne-moi ça !» crie-t-il en tirant dessus. Tout en remuant la queue encore plus vigoureusement, pour le chien, ce repas est aussi devenu un jeu. Mitraille tire de plus belle. On entend le bruit du papier qui se déchire. La camionnette a maintenant complètement quitté la chaussée. Au-delà s'étend un bosquet de pins illuminé d'un voile de brume verte et or. Brian ne pense qu'à cette viande. On ne lui fera pas manger de la viande à la bave de chien. Faudrait voir à se mettre ça dans le crâne. « Donne-moi ça !» hurle-t-il sans voir l'homme se dressant sur sa trajectoire, sans voir non plus la camionnette qui bondit juste derrière lui, ni la portière s'ouvrir côté passager, ni cette espèce d'échalas de cow-boy sauter en vol, dégainant au passage un revolver à grosse crosse jaune dans un holster à la taille, avant de rouler au sol. Le monde de Brian Smith se résume en cet instant à un chien très vilain et à un paquet de viande. Et tandis qu'ils se battent, des roses rouges apparaissent sur le papier comme des tatouages. 19. « Les voilà !» s'exclama le garçon du nom de Jake, mais Irène Tassenbaum l'avait très bien vu toute seule. Stephen King portait un jean, une chemise de travail en batiste et une casquette de baseball. Il se trouvait bien au-delà de l'intersection de Warrington et de la route 7. Il avait gravi environ un quart de la côte. Il enfonça l'embrayage à fond, rétrograda en seconde comme un pilote de Formule 1 qui aperçoit le drapeau quadrillé, puis braqua à gauche, les deux mains rivées au volant. Le pick-up de Chick McAvoy branla mais ne bascula pas. Elle entrevit un éclat métallique tandis qu'un véhicule atteignait le sommet de la colline en sens inverse, la colline sur laquelle se trouvait King. Elle entendit l'homme assis à côté d'elle hurler « Collez-vous derrière lui !» Elle obéit. Même si elle voyait à présent que le véhicule en face avait quitté la route et risquait donc de les heurter de plein fouet. Sans parler de Stephen King qui se retrouverait écrabouillé dans un sandwich métallique. La portière s'ouvrit à la volée et le dénommé Roland sauta et roula à moitié hors du camion. Et ensuite, les choses allèrent très, très vite.